Buongiorno alla Chiesa di Quebec. Vous allez peut-être détecter un accent qui vient d'un enfant qui a eu des parents qui viennent de l'Italie. Ils sont venus à Montréal. Il y avait ça à 18 à 26 ans. Et qui a été à l'école anglaise, qui a vécu dans l'est de la ville de Montréal, qui a joué avec des anglophones et des francophones. Je veux dire, jouer hockey, des sports. Et ça fait 36 ans, je pense, qu'on demeure dans les cantons de l'est. Alors, je ne sais pas quoi appeler ça, mais c'est un accent. Il y a quelques années, je ne sais pas si M. Routier s'en souvient, peut-être 7, 8 ans, je ne m'en souviens plus, et il a dit, ah, on peut avoir peut-être quelque chose à Québec, pas une église, mais au moins un service de temps en temps. Et j'ai dit, oh, il m'a dit, tu pourras parler. Et j'ai dit, oh non, Guy, parler en français, là, je ne pense pas. Puis il dit, tu peux venir à Québec? Oh, voyager 3 heures Québec, là. Non, Guy. Alors, on est le 7 décembre 2019 et je suis à Québec et je vais parler en français. Alors, M. Routier est un prophète. Et aujourd'hui, c'est ça, c'est les sujets. Je vais parler d'un prophète, Jérémie. Aimeriez-vous être prophète? Comment auriez-vous aimé être le porte-parole officiel de Dieu à Juda? Avant de répondre, vous feriez mieux de penser à ce que Jérémie a vécu pendant environ 40 ans. Il a fait carrière, 40 ans. Son ministère se terminant en 586 avant Jésus-Christ. Quand Jérémie parlait, personne n'écoutait. C'est pas du bon marketing, ça. On doit dire, quand Jérémie parle, tout le monde écoute. Mais ce n'était pas le cas. Constamment et passionnément, il a exhorté les gens à agir, mais personne n'a bougé. Il a subi de graves privations pour délivrer ses prophéties. Il a été jeté en prison et dans une citerne. Il a été amené en Égypte contre sa volonté à la fin de sa vie. Il a été rejeté par ses voisins, sa famille, les faux sacrificateurs et prophètes, son auditoire et les rois, plusieurs rois. Il a été battu. Jérémie était seul à annoncer le message de malheur de Dieu et à pleurer sur le sort de son pays bien-aimé. Je vous le demande encore une fois, comment aimeriez-vous être un prophète? Cet après-midi, nous allons jeter un œil de la vie de Jérémie et les messages qu'il a livrés à Juda et à d'autres nations, à d'autres pays. Et tout au long de cela, quelques leçons quelles leçons le livre de Jérémie peut nous donner? Qu'est-ce qu'on peut apprendre? Il n'y a aucun doute que Jérémie était un prophète appelé par un qui a été auto-déclaré comme arrive souvent aujourd'hui. S'il vous plaît, tournez à Jérémie 1, verset 4. Jérémie 1, verset 4. Et aujourd'hui, je fais seulement la première partie. Je pense que Jérémie a 52 chapitres, quelque chose comme ça. Alors, je fais la première partie aujourd'hui. Jérémie 1, verset 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que j'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de ton sein, je t'avais consacré et je t'avais établi prophète des nations. Comme Moïse avant lui, Hein, comme Moïse avant lui, Jérémie manquait de confiance en lui. Et ce jeune homme de à peu près environ 16 à 20 ans avait peur. Il avait peur. Jérémie 1, alors verset 6, descend à la verset 6, le verset 6. « Je répondis, « Ah, Seigneur éternel, voici, je ne sais point parler car je suis un enfant. » Et l'Éternel me dit, « Je ne dis pas, je suis un enfant. » Non, excuse-moi. Et l'Éternel me dit, « Ne dis pas, je suis un enfant. » Car tu iras vers tous ceux auprès de qui je t'enverrai et tu diras tout ce que je te ordonnerai. Verset 8. Ne le crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel entendit sa main et toucha ma bouche, et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Hein, c'est quelque chose. Verset 10. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes. Je cite le commentaire biblique Beyond Today de l'Église. Oh, quand Marianne m'a aidé à faire la traduction, puis j'ai été chercher les versets dans Louis II, hein, je pense que plus ou moins c'est ça qu'on utilise, puis j'ai dit, waouh, il y a des mots que je n'ai jamais entendus. J'ai dit, la prochaine fois, je vais utiliser la version québécoise. OK? Oh, ça existe? Vraiment? Oh, ça existe? Non, non. Je fais des blagues, ça ne va pas. OK? Pas sorti encore. Alors, de commentaire biblique Beyond Today. L'âge de Jérémie n'était pas important, car sa sécurité et son succès dépendaient de Dieu, pas de lui-même. Hein? Il faut s'en souvenir, dans notre cas aussi. En effet, cela aurait fourni la preuve de la direction et de l'inspiration de Dieu, en plus de servir de point de honte pour les anciens du pays, qui avaient manqué à leur responsabilité. Le jeune âge de Jérémie, à sa vocation, devrait aussi servir d'inspiration à tout jeune qui lit la parole de Dieu et qui comprend la vérité et qui est agité avec une forte conviction d'agir sur ce qu'il sait. Dieu appelle et travaille avec les jeunes aussi. L'hésitation de Jérémie et la peur initiale au sujet de sa commission reflètent probablement les sentiments d'insuffisance que nous avons lorsque nous sommes aux prises avec les nouveaux défis. Cependant, Dieu promet d'être avec nous. Nous pouvons être sûrs que si Dieu nous donne un travail à faire, il fournira tout ce dont nous avons besoin pour le faire. Si vous vous souvenez, Moïse a également fait des excuses quand Dieu lui a dit qu'il avait un travail à faire. Hein? Même Moïse, puis ce n'était pas un jeune dans ce temps-là, il avait 80, je pense. Hein? Verset 11, on continue de Jérémie chapitre 1, verset 11. « La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. « Que vois-tu, Jérémie? » Je répondis, « Je vois une branche d'amandier. » Et l'Éternel me dit, « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Verset 13, « La parole de l'Éternel me fut adressée une seconde fois en ces mots. « Que vois-tu? » Je répondis, « Je vois une chaudière bouillante du côté de Septentrion. » J'imagine ça veut dire le nord, hein, c'est ça? Verset 14, « Et l'Éternel me dit, c'est une sorte septentrion que la calamité se répandra sur tous les habitants du pays. Car voici, je vais appeler tous les peuples des royaumes de septentrion, dit l'Éternel. Ils viendront et placeront chacun leur siège à l'entrée des portes de Jérusalem, contre les murailles, tout l'alentour et contre toutes les villes de Juda. Verset 16, je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné et ont offert de l'encens à l'autre Dieu, et parce qu'ils se sont prosternés devant l'ouvrage de leurs mains. Alors, le pot d'eau bouillante qui bascule du nord et qui déborde sur Juda, c'est l'image de Babylone qui livre le jugement brûlant de Dieu contre le peuple de Jérémie. Jérémie reçut l'ordre de se préparer à l'action afin de lui offrir la mauvaise nouvelle. Verset 17, « Et toi, saint des reins, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. » Pourtant, Dieu donne à Jérémie un grand encouragement. Verset 18, et il faut dire qu'on a besoin d'encouragement de temps en temps hein, dans la vie chrétienne. Verset 18, chapitre 1. « Voici, je t'établis en ce jour sur tout le pays comme une ville forte, une colonne de fer et un mur d'airain, contre les rois de Juda, contre les chefs, contre les sacrificateurs et contre le peuple du pays. » Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Les preuves font partie d'une vie chrétienne, on sait ça, hein? On a vécu ça, puis on vit ça. Bien que nous ne soyons peut-être pas confrontés à des épreuves aussi menaçantes que Jérémie, j'espère pas, nos épreuves et nos problèmes sont quand même importants pour nous et peuvent nous submerger. La promesse de Dieu est qu'il nous aidera au travers. Dieu prendra soin de nous. Nous devons nous le rappeler, que Dieu prendra soin de nous. Juda avait oublié Dieu. Il s'était égaré et s'était aggravé, surtout sous la règne méchante du roi Manassa. Jérémie 2, verset 11. Y a-t-il une nation qui change les dieux, quoiqu'ils ne soient pas les dieux, des dieux? Et mon peuple a changé sa gloire contre ceux qui n'est aucun sécure, qui n'ont d'aucun sécure. Alors ici, il dit, au moins les autres peuples païens, ils ne changent pas de Dieu, mais vous, qui doit être le peuple de Dieu, vous changez des dieux. Il n'a jamais vu ça. Ce n'est pas un compliment. Verset 12 de chapitre 2, « Cieux, soyez étonnés de cela, frémissez d'épouvante et l'horreur et d'horreur, dit l'Éternel, car mon peuple a commis un double péché. Un double péché. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source de vie, d'eau vive, pour se creuser des citernes crévassées qui ne retiennent pas d'eau. » Nous avons probablement entendu parler des fontaines d'eau vive à la fête des tabernacles. Nous autres, en Jamaïque, c'est oui. Mettre de côté une fontaine d'eau vive pour une citerne fissurée et vide qui ne pouvait pas contenir d'eau est impensable. Pourtant, c'est ce que Juda a fait. Le peuple avait construit des systèmes religieux dans lesquels ils ont mis la vérité, mais ces systèmes étaient sans valeur. Les citernes instables incluent l'argent, le pouvoir, les systèmes religieux et n'importe quelle chose transitoire que nous mettons à la place de Dieu. Jérémie 2, verset 19. Ta méchanceté te châtiera et ton infidélité te punira. C'est-à-dire, c'est une conséquence automatique de tel comportement. Tu sauras et tu verras que c'est une chose mauvaise et amère d'abandonner l'Éternel, ton Dieu, et de ne avoir de moi aucune crainte, dit le Seigneur, Éternel des armées. Allez au verset 26 du chapitre 2, s'il vous plaît, pour plus sur le comportement de Judas, verset 26 du chapitre 2. Quand j'ai donné ce message à Montréal, ça m'a pris 40 minutes ici, alors ça va me prendre 2 heures. Hein? C'est normal? OK. Alors, verset 26. « Comme un voleur est confus lorsqu'il est surpris, ainsi seront confus ceux de la maison d'Israël, eux, leur roi, leur chef, leur sacrificateur et leur prophète. Ils disent au bois, « Tu es mon père. » Et à la pierre, tu m'as donné la vie, car ils me tournent le dos et ils ne me regardent pas. Et quand ils sont dans la malheur, ils disent, « Lève-toi, sauve-nous. » Où donc, verset 28, « Où donc sont tes dieux que tu t'es fait? Qu'ils se lèvent, qu'ils peuvent te sauver, s'ils peuvent te sauver au temps du malheur, car tu as autant de dieux que de ville à Juda. Quand tu as autant de dieux que les villes au Québec. Hein? C'est la même chose. Ils ont honte parce qu'ils ont été pris et ne sont pas tirés avec leur péché. Alors, ils ont honte, pas pour leur péché, mais parce qu'ils ont été pris dans leur péché. Ils n'avaient pas honte parce qu'ils avaient mal agi. Avons-nous tendance de le faire aussi, c'est-à-dire appeler Dieu seulement quand nous avons besoin de lui? Hein, c'est la tendance humaine de faire ça. Quand nous sommes seulement en difficulté, ne vaudrait-il pas mieux d'avoir une relation saine et cohérente avec lui et de faire appel à lui dans les bons et les mauvais moments aussi? Les bons moments aussi? Dans le chapitre 3, Dieu dit que Israël s'était prostitué et Juda suit ses traces. Il dit que Juda n'est jamais sincèrement retourné à lui et a seulement fait semblant d'être désolé. Et je ne sais pas pourquoi, mais j'ai toujours pensé que Israël, c'est-à-dire dans le nord d'Israël, qui était pire que Juda. Mais en lisant Jérémie, c'est Juda qui était pire qu'Israël. Ça ne va pas? OK. Dans le chapitre... OK, j'ai lu ça. Dieu plaide que Israël lui revienne. Jérémie 3, verset 11. Jérémie 3, verset 11. L'Éternel me dit, « L'infidèle Israël paraît innocente. » En comparaison de la perfide Juda. Alors, voilà, OK? Verset 12, « Va, crie ces paroles vers le septentrion. Il dit, reviens, fidèle Israël, dit Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. » On est très content de ça. Verset 13. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel, ton Dieu, que tu as dirigé ça et là, tes pas vers les dieux étrangers, sous tous arbres verts et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. La première étape du repentir est d'admettre que nos actions sont mauvaises, n'est-ce pas? Première étape. Israël n'essayait même pas de faire semblant d'obéir à Dieu. Même pas de faire semblant. Mais Juda a maintenu l'apparence de la foi sans un vrai corps, qui est pire. Exprimer la douleur sans changement est hypocrite. Être désolé pour le péché ne suffit pas. Je me souviens d'un homme à l'époque de l'Église universelle à Montréal. Il couchait avec des femmes, il n'était pas marié. Puis la culpabilité le poussait d'aller voir le ministre et confesser ses péchés. Alors qu'il se mettait lui-même hors de l'Église ou qu'il était mis dehors par l'Église. Okay? Puis il revenait à l'Église et il le ferait encore et encore. Il l'a fait moins de fois. Et ce n'est pas que j'ai vu ça, il m'a raconté ça. OK, alors je le sais. Il n'y a aucun doute qu'il était désolé à chaque fois pour ses, je vais utiliser le mot, sexcapades, OK, avant le mariage. Mais il ne pouvait pas ou il ne voulait pas changer. Je ne sais pas. On continue dans le verset 14. Revenez, enfants rebelles, dit l'Éternel, car je suis votre maître. Je vous prendrai d'une ville, d'une famille, et je vous ramènerai dans Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. À cette époque, le royaume du Nord, c'est-à-dire Israël, était en captivité, puni pour ses propres péchés. Le peuple de Juda les méprisait, sans aucun doute, pour leur hérésie sans honte et leur morale dégradée. Comment Juda pourrait-elle penser qu'elle était sûre? Comment? Dieu a dit, l'infidèle Israël paraît innocente et en comparaison de la perfide Juda. J'ai lu ça avant. Juda aura dû retourner à Dieu après avoir vu la destruction d'Israël, n'est-ce pas? Comment pourrait-il pas voir l'écriture sur le mur? Mais le peuple a refusé de changer leur manière très méchante. Alors, Jérémie les a surpris en réaffirmant les promesses de Dieu au reste d'Israël s'ils voulaient se repentir. Verset 22 de Jérémie 3. Verset 22. Revenez, enfants rebelles, je pardonnerai vos infidélités. Nous voici, nous allons à toi, car tu es l'Éternel, notre Dieu. Dieu veut qu'on réussisse. Il est miséricordieux. Ici, je cite le Life Application Study Bible. Le monde glorifie l'excitation, en anglais on dit thrills, l'excitation qui vient avec la richesse, de la victoire et du plaisir sexuel, et il ignore les péchés qui sont si souvent associés à ces excitations. Le péché est une déception, et la plupart des gens ne peuvent pas voir cela jusque c'est trop tard. L'avantage de croire à la parole de Dieu est que nous n'avons pas à prendre par l'expérience difficile les résultats destructeurs du péché. Mais souvent, c'est comme ça qu'on apprend, mais ce n'est pas nécessaire. Jérémie prêche la terrible destruction qui vient du nord de Babylone, une destruction apportée par leurs mauvaises pensées et actions. Voici une autre épreuve que Jérémie a vécue en tant que prophète. Pleurer pour son peuple. Pleurer pour son peuple. Jérémie 4, verset 19. Jérémie 4, verset 19. « Verset 19. Mes entrailles, je souffre au-dedans de mon cœur. Le corps m'abat, je ne puis me taire, car tu entends mon âme le son de la trompette, le cri de guerre. On annonce ruine sur ruine, car tout le pays est ravagé. Mes tentes sont ravagées tout à coup, mes pavillons en un instant. Verset 21. Jusqu'à quand verrai-je la bannière et j'entendrai-je le son de la trompette? Certainement, mon peuple est fou. Il ne me connaît pas. Ce sont des enfants insensés, dépourvus d'intelligence. Ils sont habiles pour faire le mal. Ils sont habiles pour faire le mal, mais ils ne savent pas faire le bien. The Life Application Study Bible se lit comme suit le même verset. Ils sont des experts pour faire ce qui est mauvais, mais ils ne font pas ce qui est bien. Jérémie était angoissé par la dévastation sûre du jugement à venir. Un jugement qui continuerait jusqu'à ce que le peuple se détourne de leur péché et écoute Dieu. Toutes ces mauvaises nouvelles étaient plutôt troublantes pour Jérémie. C'est normal. Il était accablé par ce que Dieu allait porter à Jérusalem. Jérémie a fait face à une lutte intérieure profonde de sa proclamation du message divin. Rappelons-nous que Jérémie venait d'une ville situation à seulement 2000 et demi kilomètres de Jérusalem. Alors, pas loin. Imaginez-vous que vous êtes un prophète, que vous prêchez à votre peuple, à Lévis, Québec, Sainte-Foy, Deschaillons, Victoriaville, etc. Vous connaissez ces gens qui habitent dans votre ville. Pourtant, ils ne croient pas ce que vous prêchez et ce qui va leur arriver. Ils ne croient pas à ça. Comme c'est douloureux pour Jérémie de savoir que son peuple refusait de changer et, par conséquence, souffrirait beaucoup. Je ne pense pas qu'un vrai chrétien voudrait voir ces choses, d'autres personnes souffrir, surtout aux gens que nous connaissons. Comparer cela avec le prophète Jonas, qui a été bouleversé par Dieu quand il a enlevé la punition de Ninive. Voyez la réaction des deux? Jérémie 5, verset 1. Jérémie 5. Parcourez les rues de Jérusalem, regardez, informez-vous, cherchez dans les places. S'il s'y trouve un homme, s'il y en a un qui pratique la justice, qui s'attache à la vérité, et je pardonne à Jérusalem. Une personne. Même quand ils disent l'Éternel est vivant, c'est faussement qu'ils jurent. Pas une seule personne honnête, pas une seule personne. Cela indique la méchanceté de la ville. En outre, ces gens se mentaient à eux-mêmes sur leur avenir et le message de Jérémie. Verset 12, Jérémie annonce, verset 12, « Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas. Et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous le verrons ni l'épée ni la famine. » Verset 13, les prophètes ne sont que du vent et personne ne parle en eux. Qu'il leur soit fait ainsi. Est-ce qu'on se ment On se ment à nous-mêmes, parfois. Les événements de l'Église les 20 dernières années, plus, nous ont peut-être amenés à adopter une vision blasée, c'est-à-dire fatiguée, usée, cynique de la parole à Dieu. Excuse-moi, de la parole de Dieu, du ministère et de la doctrine. Les gens sont allés en dehors de la parole de Dieu pour chercher la vérité. Les gens ne semblent pas avoir le même respect pour les ministres, les Écritures de Dieu et même pour Dieu. Dans le verset 24, nous avons besoin de vivre dans la crainte du Seigneur notre Dieu. De vivre dans la crainte du Seigneur notre Dieu. On revient au verset 14 de Jérémie 5, chapitre 5, verset 14. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel de Dieu, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Alors, le peuple du bois, on peut voir l'imagerie ici, le peuple du bois et la parole de Dieu du feu. Alors, qu'est-ce qui arrive? Ce dernier verset me rappelle des deux témoins qui, si quelqu'un essaye de leur faire du mal, les flammes sortent de leur bouche et consument leur ennemi. Dans le cas de Jérémie, c'est le message qui vont consumer le peuple de Juda à cause de leur mensonge. Jérémie 5, verset 30. Verset 30. Des choses horribles, abominables, se font dans le pays. Les prophètes prophétisent avec fausseté. Les sacrificateurs dominent sous leur conduite et mon peuple prend plaisir à cela. Que ferez-vous à la fin? Une autre fois, dans le commentaire biblique Beyond Today, c'est une chose horrible pour Dieu que les prophètes prophétisent ou prêchent ou enseignent faussement. Et les sacrificateurs gouvernent par leur propre pouvoir et pas par l'Esprit de Dieu. Et mon peuple prend plaisir à cela. Quelle triste accusation! Les gens préfèrent d'écouter les mensonges que la vérité. Nous le voyons particulièrement aujourd'hui au nom de la tolérance. Quiconque qualifiera le comportement des autres de mauvais est considéré comme un fanatique et un haineux. Et quand la critique est réduite au silence, c'est-à-dire on ne dit rien, on ne fait rien, il n'y a bientôt pas de crainte des conséquences comme dans les versets 12 et 13. Jérémie 6, chapitre 6, au verset 13. Jérémie 6, verset 13. On va voir plus de... Ce verset donne plus de mots condamnants sur le peuple et son leadership. Verset 13. « Car depuis le plus petit jusqu'au plus grand, tous sont avides de gain, depuis le prophète jusqu'au sacrificateur. Tous usent la tromperie. » Ils pensent à la légère la plaie de la fille de mon peuple. Paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas d'appoint de paix. Ça, c'est un verset bien connu, Jérémie, en anglais, c'est « Peace, peace, there is no peace ». Alors, paix, paix, disent-ils, et il n'y a pas d'appoint de paix. Le peuple avait besoin d'entendre la vérité et de se faire dire d'arrêter de vivre leur vie de pécheresse. Mais le leadership était silencieux sur ce sujet. Verset 15. Ils seront confus car ils commettent des abominations. Ils ne rougissent pas, ils ne connaissent pas la honte. C'est pourquoi ils tomberont avec ceux qui tombent. Ils seront renversés quand je le châtirai, dit l'Éternel. Et c'est quelque chose de ne pas avoir de honte, de ne pas rougir quand on fait quelque chose qui n'est pas correct. Ils ne savent pas comment rougir. Ce verset donne un aperçu supplémentaire des profondeurs de la méchanceté de le peuple que le peuple avait atteint, le peuple de Juda. Ensuite, Jérémie dit au peuple de ne pas être trompé par une organisation religieuse ou par des rituels d'adoration tels qu'assister aux assemblées chaque semaine ou quelque chose de similaire. Je ne dis pas que ce n'est pas bien d'assister à l'assemblée, mais ce n'est pas ça notre sécurité. Juda a suivi un rituel d'adoration, mais a maintenu un mode de vie pécheur. Jérémie 7, verset 4. C'est bien, j'attends, c'est pas nécessaire d'attendre pour le traducteur, hein? Je ne suis pas habitué à ça. Jérémie 7, 4. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur. Alors, verset 7, « Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que je donne à vos pères, que j'ai donné à vos pères, l'éternité d'éternité en éternité. » Juda pensait que le temple les sauverait. Ah oui. Il a fallu beaucoup de courage à Jérémie pour réfuter la fausse croyance que Dieu ne laissera pas le mal venir au temple ou à ceux qui vivaient près de lui. C'était considéré comme leur sanctuaire, le temple, comme leur sanctuaire, et pensait que cela donnerait une protection et un privilège. Est-ce que nous avions peut-être eu la même fausse sécurité avec nos organisations religieuses, soit dans le passé ou le présent? Après les récits de l'Église universelle, je me souviens que certaines personnes m'ont dit qu'elles ne quitteraient jamais l'Église universelle parce que c'était l'organisation dans laquelle Dieu les a appelés, oubliant que l'Église de Jésus est spirituelle et pas physique. Verset 8. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Quoi? Dérober, tuer, commettre des adultères, jurer faussement, offrir de l'encens à Baal, aller après d'autres dieux que vous ne connaissez pas. Puis, vous venez vous présenter devant moi, dans cette maison sur laquelle mon nom est invoqué, et vous dites, nous sommes délivrés, et c'est afin de commettre tout ces abominations. Les gens peuvent accorder trop de foi à ceux considérés comme faisant partie du temple spirituel de Dieu, son Église, plutôt que dans Dieu lui-même. Ils peuvent penser que juste parce qu'il assiste aux assemblées, se considère comme un membre de l'Église, que cela les sauvera. Un exemple de faux raisonnement et de justice, de la justice par association. C'est-à-dire, on va à l'Église, ça veut dire, ça c'est l'Église de Dieu, ça veut dire on est correct. On est sauvé. Et on ignore tous les autres, nos autres comportements. Nous apprenons que Judas était si persistant dans l'idolâtrie que Dieu a dit à Jérémie de ne plus pleurer ou prier pour Judas. Et ça, c'est quelque chose de dire, ne prie pas pour eux, puis pleure pas pour eux. Il lui a dit de ne pas le supplier de les aider parce qu'il ne coûtera pas plus Jérémie. Il y a un moment dans notre vie, dans la vie des chrétiens, dans la vie du monde, où c'est fini. C'est tout. Jérémie était connu sous le nom du prophète pleureur. On dit ça, hein? Weeping prophet en anglais. Oui. Il ressentait des émotions contradictoires à l'égard de son peuple. Le mensonge, la tromperie, la trahison, l'adultère et l'idolâtrie étaient devenus des péchés communs avec Judas. Il était irrité par leurs péchés, mais il avait aussi de la compassion. Il avait une mission, mais il était aussi l'un d'entre eux, comme j'ai mentionné avant. Jérémie 8, verset 18. Verset 18, chapitre 8. Je voudrais soulager ma douleur. Mon cœur souffre au-dedans de moi. Voici les cris de la fille de mon peuple. Retentissent sur la terre lointaine. L'Éternel n'est-il pas plus à Sion? N'a-t-il pas plus son roi au milieu d'elle? Pourquoi m'ont-ils irrité par leur image taillée, par leur idole étrangère? Chapitre 9, verset 1. Chapitre 9, verset 1. Oh, si ma tête était remplie d'eau, si mes yeux étaient une source de larmes, je pleurerais jour et nuit les morts de la fille de mon peuple. Oh, si j'avais au désert une cabane de voyageurs, j'abandonnerais mon peuple et je m'en éloignerais, car ce sont tous des adultères. C'est une troupe de perfides. Verset 5. Ils se jouent les uns les autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir. Ils s'étudient à faire du mal, le mal. Ils étudient à faire le mal. Ça, c'est quelque chose. Ta demeure est au sein de la fausseté. C'est par fausseté qu'ils refusent de me connaître, dit l'Éternel. Une fois de plus, le commentaire biblique Beyond Today. Ça, c'est quelque chose, hein, quand il étudie à faire de mal, c'est comme il prend ça vraiment sérieux, hein, au sérieux. Hein? De le commentaire biblique Beyond Today. Alors que Jérémie a été décrit comme un orateur sombre qui a une caractérisation extrême et injuste du prophète, ses messages qui critiquaient la conduite du peuple et mettaient en garde contre la punition n'étaient pas ses propres inventions. Il transmettait les messages de Dieu. En outre, ces messages incluaient la merveilleuse promesse de miséricorde et de délivrance si le peuple se repentait. Et Jérémie 1:10 révèle clairement que sa commission devrait inclure les éléments positifs et négatifs, constructifs et destructeurs. Son livre contient également de joyeuses prophétie du Messie à venir, une nouvelle alliance et un nouvel âge heureux à venir. La vie solitaire d'un prophète, d'être le porteur de mauvaises nouvelles, était un fardeau lourd et déprimant à porter. En particulier pour un si profondément préoccupé et tendre comme Jérémie. Il ressentait de la colère et du dégoût face à l'apostasie et à l'idolâtrie du peuple, mais il pleurait aussi. Connaissant le sort inquiétant qui attendait ses compatriotes bien-aimés. Ajoute à cela, il se sentait perplexe et humilié quand de nombreuses années passaient et ses prophéties ne se sont pas réalisées. Pourtant, bien qu'il ait souffert de mélancolie fréquente, la tristesse, c'était le reflet du grand stress et des sacrifices de sa vie. Il a fait 40 ans. Pas de faiblesse inhérente. Le deuil des autres pour leur méchanceté et leur souffrance future est une force spirituelle, pas une faiblesse. Je vais relire ça, répéter ça. Le deuil des autres pour leur méchanceté et leur souffrance future est une force spirituelle et non pas une faiblesse. Ses autres forces étaient sa foi en Dieu, sa dévotion à la prière, sa fidélité dans l'accomplissement de sa vocation et son courage inébranlable face à l'hostilité et au danger. La vie de Jérémie a des parallèles avec la vie de Christ, du Christ, qui était méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Ça vient de Isaïe et Matthieu. La prière de Jérémie. Jérémie 10, verset 23. Jérémie 10, verset 23. Verset 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. D'autres versets très bien connus dans Jérémie. Châtie-moi, ô Éternel, mais avec équité et non dans ta colère, de peur que tu ne m'anéantisses. Anéantisses. Une autre fois de la Life Application Study Bible. Nos vies ne sont pas les nôtres. La capacité de Dieu à diriger nos vies est de loin supérieure à notre capacité. Parfois, nous avons peur de la puissance et des plans de Dieu parce que nous savons que son pouvoir nous écraserait facilement. Rappelez-vous la question que j'ai posée, qui ici voudrait être un prophète? Deux personnes seulement? OK. Rappelez-vous, Jérémie a fait ce travail pendant 40 ans. Nous pensons que cela devrait être un travail facile parce que Dieu nous soutient. Eh bien, ce n'est pas le cas. Jérémie 11, verset 18. Jérémie 11, verset 18. L'Éternel m'en a informé et je l'ai su, alors que tu m'as fait voir leurs œuvres. J'étais comme un agneau familier qu'on mène à la boucherie. J'ignorais les mauvais desseins qu'ils médiaient contre moi. Détruisons l'arbre avec son fruit. Retranchons-le de la terre des vivants et qu'on ne se souvienne plus de son nom. Verset 20, « Mais l'Éternel des armées est un juste juge qui sondes les reins et les cœurs. Je verrai ta vengeance d'exercer contre eux, car c'est à toi que je confie ma cause. » C'est pourquoi ainsi parlait l'Éternel contre les gens d'Anathoth, ou ce qui venait à Jérémie, qui en veulent à ta vie et qui disent « Ne prophétise pas au nom de l'Éternel ou tu mourras de notre main. » Des menaces, ça? Des menaces, hein? Jérémie pose alors une question sous la forme d'une plainte que beaucoup de croyants ont probablement posé avant. Sûrement, on a posé les mêmes questions. Pourquoi les méchants sont-ils si prospères? Pourquoi? Pourquoi les gens maléfiques sont-ils si heureux? Jérémie voulait que ces gens maléfiques soient traînés comme des moutons et soient massacrés et abattus. Jérémie savait que la justice de Dieu finirait par venir, mais il était impatient parce qu'il voulait une justice plus rapide. Dieu lui répond en Jérémie 12, verset 5. La réponse de Dieu, Jérémie 12, au verset 5. Si tu cours, ça c'est d'autres mots que j'aime aussi dans Jérémie, si tu cours avec des piétons et qu'ils te fatiguent, comment pourras-tu lutter avec des chevaux? Et si tu ne te crois pas, si tu ne te crois en sûreté que dans une contrée paisible, que feras-tu sur les rives orgueilleuses du Jourdain? Verset 6, « Car tes frères eux-mêmes et la maison de ton père te trahissent. Ils crient eux-mêmes à pleine voix derrière toi. Ne les crois pas quand ils te diront des paroles amicales. » La vie était très difficile pour Jérémie. Quand il a appelé Dieu pour le soulagement, la réponse de Dieu, en effet, a été, OK, si tu penses que c'est difficile, comment vas-tu faire, qu'est-ce que tu vas faire, comment vas-tu faire lorsque cela sera vraiment difficile? Les réponses de Dieu aux prières ne sont pas toujours agréables ou faciles à accepter. Quand nous recevons de telles réponses de Dieu, c'est parce qu'il sait que nous pouvons être plus forts et devons devenir plus forts. Et avec ça, je termine la première partie de Jérémie. Et l'autre partie, ce sera pour la prochaine fois. Merci.